Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire comme chaque samedi à 11h sur Radion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Azouz Begag. Bonjour Azouz Begag.
Bonjour Yannick, bonjour aux auditeurs de Radion.
Alors Azouz Begag, un dernier roman paru courant août dernier chez Julliard et qui a pour titre « L'arbre » ou la maison. Azouz Begag, la quatrième de couverture, ne nous renseigne pas beaucoup sur vous, quand bien même vous êtes un homme public, moins maintenant peut-être, en tout cas écrivain, public un temps, parce que, je le rappelle, vous fûtes, j'utilise un petit passé simple, je le glisse là, parce que vous aimez les passés simples.
J'adore.
Vous fûtes ministre dans le gouvernement de Dominique de Villepin, à l'époque où Jacques Chirac était président de la République. En quelle année êtes-vous devenu
2005,
ministre
2005-2007.
Et vous étiez ministre de l'intégration ?
Non, pire que ça, de l'égalité des chances.
De l'égalité, oui, vous preniez un risque là.
Oui, l'intégration, ça concerne les enfants de migrants, et l'égalité des chances, tous les enfants français. C'est différent, c'est plus large le public.
Je me permets d'insister à Azouz Begag, tout d'abord parce que je vous l'ai dit, très jeune, j'ai lu votre premier roman, Le Gaune du Chahaba, dans lequel vous retraciez, j'allais dire presque l'itinéraire d'un enfant pas gâté à l'origine.
Même qui l'itinéraire d'un enfant né dans un bidonville.
Et en banlieue lyonnaise.
Oui, et qui n'a à peu près aucune chance de réussir sa vie et de trouver la porte de l'ascenseur social.
Êtes-vous l'archétype, l'exemple de l'ascenseur social de la République française ?
Je devrais être l'emblème de la France dans le monde, de cette France qui a fait son prestige mondial, surtout après la révolution de 1789, quand le pays est vraiment devenu un pays de liberté et d'égalité pour tous les citoyens français. Nous avons attiré des gens du monde entier qui sont venus chez nous à partir de cette date de la Révolution, trouver ces valeurs de fraternité dans ce nouveau pays. Et donc, ces enfants-là, nés dans les bidonvilles, dans les périphéries urbaines de la France dans les années 60, et qui devinrent ministres du gouvernement français, il n'y en a pas pléthore. Ce gouvernement et cette République devraient s'en servir, nous utiliser, nous manipuler, nous instrumentaliser pour faire de nous les exemples frappants qui illustrent la possibilité qu'il y a en France pour tous les enfants de s'en sortir.
Et le moule n'est-il pas cassé en cette année 2021 ou alors fragilisé ?
Mais bien sûr, depuis très longtemps en fait, parce que la France et les Français se sont bercés dans les mythes de la méritocratie. L'égalité des chances pour tous, c'est un mythe, c'est un objectif, mais après ça doit être une action politique. Et cette action politique, avant que je la conduise au gouvernement au titre de l'égalité des chances, elle n'existait pas. Et j'ai commencé en 2005. Nos parents sont arrivés en France en 1948. Et c'est seulement en 2005 que l'égalité des chances entre tous les enfants de France a été menée par un ministre issu de cette immigration maghrébine et de ces bidonvilles. Franchement, si j'avais été roi de France, j'aurais utilisé cette image à côté de celle de Charlemagne pour dire au combien la France peut être fière de pouvoir sortir, extraire de leur bidonville des enfants comme moi.
Et aujourd'hui, Azouz Begag, retiré de la politique définitivement ?
Oui. Parce que je trouve que d'abord, lorsque j'y étais, je plaidais pour la déprofessionnalisation de la politique. Je trouvais que passer 20 ans, 30 ans en politique, c'était très toxique pour la personne qui exerçait cette fonction, et pour sa famille, et pour la fonction elle-même.
Oui.
Parce qu'au bout de 20 ans, 30 ans, vous voyez, j'arrive d'une ville, moi de Lyon, où le maire Édouard Herriot est resté maire de 1905 jusqu'à 1957. Vous vous rendez compte, 53 ans, maire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le maire de Lyon, qui a été viré il y a quelques mois par les écologistes, en était à sa 20e année. Il était devenu un dictateur, un autocrate, un seigneur sur cette terre. Et ça, c'est pas bon pour la circulation, pour la fluidité des valeurs démocratiques.
Mais vous, Azouz, vous continuez dans le domaine de l'écriture. Premier roman, Le Gaulle du Chava, premier roman. Alors, c'était en 86, ouais. Au Seuil. Et puis, le tout dernier dont nous allons parler, L'Arbre ou la Maison, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et qui, d'ailleurs, a été récompensé lors de la 14e édition du salon Livre en Vigne qui se tient chaque année au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. Vous avez reçu le prix Livre en Vigne et cela
liquide,
vous réjouit.
En liquide, vous savez, en liquide.
En liquide, hein. La bouteille de Pommard n'est pas loin.
Et je la protège depuis hier soir parce que j'ai eu 25 propositions de personnes qui voulaient m'aider à la porter.
Oui.
Je ne leur ai pas fait confiance, donc je l'ai mise sous scellé dans ma chambre.
Vous êtes méfiant, Azouz.
Sous le lit, dans la chambre numéro 1.
N'en dites pas trop, mais quand l'émission sera diffusée, vous aurez quitté les lieux. Nous sommes à l'hôtel de la Vouge, à Vougeot. Et Azouz, on parle de L'Arbre ou la Maison, roman dans lequel... Alors, l'action se situe en 2019 et vous faites revenir en Algérie, le pays de leurs racines, deux binationaux, deux franco-algériens. Le narrateur, qui vous ressemble terriblement, accompagné de son frère, Samy. Samy qui est d'ailleurs passionné par les arbres et qui a grandi d'ailleurs avec les arbres dans les baraquements au bord du Rhône. Alors, c'est un retour en Algérie, à Sétif. Elle existe réellement, cette compagnie aérienne Aigle Azur?
Non seulement elle existe.
C'est une invention. Elle existe
pas
réellement?
Pas du tout, ah oui. Pas du tout. Non seulement elle existe, mais à l'issue de ce roman, quand la valise de mon frère a finalement été retrouvée dans les arcanes des tapis de voyage de cette entreprise de transport aérien, Aigle Azur, la compagnie a coulé, elle n'existe plus.
Alors, donc, ça commence mal, parce que le pauvre Samy, qui est un peu, il est un peu soupaulé, puis il a une espèce de rage, de colère un peu continuelle en lui.
Oui,
il n'est pas spécialement heureux de revenir au pays.
En règle générale, il n'est pas très heureux, parce que c'est un frère qui n'a jamais lu de livre, qui... n'a jamais voyagé, qui approche la barrière fatale des 70 ans et qui se rend compte qu'il a été tellement obsédé, comme tous les enfants de mon bidonville, puisqu'il a grandi aussi à Lyon, tellement obsédé par l'argent. Il fallait à tout prix se protéger, selon lui, de toutes les difficultés de la vie en ayant beaucoup d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on est un bougnoule. Mais quand on a beaucoup d'argent, on devient un monsieur, même quand on est d'origine maghrébine. C'est ce qu'il disait quand on était petit. Et finalement, voilà, il a tellement eu cette angoisse de manquer d'argent qu'il a passé toute sa vie à en accumuler. Et là, il a 70 ans et il se rend compte qu'il a l'argent sous son lit, mais qu'il ne sait plus quoi en faire parce qu'il n'a pas la culture pour le dépenser. Contrairement à moi, à Azouz, le narrateur, qui lui va en Algérie pour voir la révolution, pour voir l'avalanche de cris de victoire de ces gens qui ont eu le courage de sortir dans la rue pour demander la démocratie, la liberté. Mais Azouz aussi va voir l'amour de sa vie qui l'attend là-bas, la gazelle blanche.
La gazelle blanche, ouais. C'est la signification de son prénom, c'est Rime, c'est une fille du bled qui occupe la maison qui appartient à ses deux frères, puisque c'est la maison des parents, c'est la maison de Beaumarchais.
Ah oui, c'est vrai, vous avez noté ça, c'est vraiment marrant, parce qu'elle se situe dans la ville de Sétif, en Algérie, dans l'Est, très connue pour les massacres que l'armée française y perpétra le 8 mai 1945, à partir du 8 mai 1945, et pendant 3 mois. Les Français ont tué tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'à 10h du matin, ce 8 mai 1945, vous savez, en France, on célèbre le 8 mai 1945 comme le jour de la libération.
De la victoire 1945.
Oui, Mais nous, enfin nous, mes ancêtres, les Algériens, en, le 8 mai 1945, ils se sont réunis sur la, près de la fontaine de cette ville. Ils étaient 10 000 personnes et ils ont décidé de manifester eux aussi pour l'indépendance. Puisqu'il y avait une victoire célébrée en France, ils voulaient eux aussi célébrer le début de la victoire contre la colonisation pour l'indépendance. Et ils se sont tous fait massacrer parce que l'un d'eux a sorti un drapeau algérien et ça a déclenché la foudre des autorités policières d'abord, militaires ensuite, pendant 3 mois. Et dans ce quartier près de la gare qui s'appelle le quartier Beaumarchais, et en fait il vient du nom habitation à Bon Marché, à Bon Marché, HBM, HBM, habitation Bon Marché. Et comme les Arabes ne pouvaient pas prononcer Bon Marché, ils ont commencé à dire Bon Marché, Bon Marché, Bon Marché. Et on en est arrivé à Bon Marché, qui était en 1730, 1740, à Paris, l'éditeur de mon grand ami François-Marie Arouet, dit Voltaire. Oui. Alors c'est drôle, hein?
nos deux frères, nos deux bis, comme vous les appelez, des bis de France, arrivent donc à la maison de Beaumarchais et ils découvrent une Algérie qui n'a plus le même visage, forcément, qui a considérablement évolué. Par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais dans le roman, Azouz Begag, vous écrivez « Il n'y a plus d'ânes en Algérie ».
Oui, où sont-ils? On dit que les Chinois les rachètent pour en extraire des éléments libidinaux, je crois.
Pauvres petits ânes algériens.
Que nenni, Yannick! En vérité, ce sont tous les ânes de la Méditerranée qui ont disparu. À mon avis, même dans l'île de Santorini, en Grèce, ceux qui montent du port jusqu'au sommet de la ville et qui escalade la falaise, là, et il ne doit pas en rester beaucoup. Voilà. Et donc la faute a été rejetée sur le dos des Chinois qui, dit-on, les rachètent à prix d'or pour en faire...
pour en faire des stimulants sexuels pour Chinois défaillants.
Oui, en tous les cas, c'est ce que mon narrateur raconte dans le livre.
L'arbre ou la maison, c'est le titre du dernier roman de notre invité Azouz Begag, roman disponible chez Julliard, prix Livre en Vigne 2021. Azouz, si vous le voulez bien, on boit une petite goutte de café et puis nous retrouvons nos auditrices et auditeurs juste après la virgule musicale que nous leur proposons. Grèce.
Me pique, c'est la salaison. Quand ils louent de leurs bras, elles rient de bonté. Tic-tic-tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que que je perds quand je te veux. T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux. T'aimes, dis-moi comment mieux. Toucher. Allez noyer ma femme puisque c'est elle qui t'a plu. Un billet pour Stella qui sera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. Qui pour me traiter toi.
Que faire,
que faire
de l'énergie que je perds quand je te veux.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'arbre ou la maison, Azouz Begag, c'est votre dernier roman paru en août dernier chez Julliard. Nous l'avons dit juste avant la pause musicale, les deux frères retournent en Algérie, à Sétif. Et évidemment, quand on parle de l'arbre, on évoque les racines. C'est un retour aux sources, un retour aux racines. C'est émouvant aussi parce que ces deux frères retournent sur les tombes des parents. Des parents qui ont vécu en France, qui, vous le dites, sont morts dans les HLM de Lyon, oui. Mais qui ont été donc enterrés en Algérie. Et le grand frère, c'est Samy est plus, oui. plus âgé. Hein. Samy, lui, a des souvenirs un peu douloureux de ses parents. Parce qu'il dit à un moment, il dit à Azouz, j'ai toujours été le fils aîné. C'est beau, c'est une parole nomade d'ailleurs. J'ai toujours été le fils aîné et toi, le fils aimé. Ouais, et le petit Azouz, me semble-t-il, avait une relation plus particulière avec sa maman que Samy.
Oui, vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour, mon frère m'a dit, il me l'a dit, j'ai beaucoup souffert de la relation que tu avais avec les parents. Parce que la mienne était plus triste. Il m'a dit, j'étais l'aîné, mais toi, tu étais l'aimé. C'est drôle, ça. Oui. De dire à son frère cadet, quand on a dépassé les 60 ans, quelque chose comme ça.
Et il dit même, j'ai toujours été votre mouton noir.
C'est un peu vrai, parce que, qu'est-ce que vous voulez, ce petit Azouz-là qui voulait faire plaisir à son papa et sa maman à l'école primaire, à l'école Léo Lagrange, à Lyon. À 5-6 ans, il savait lire et écrire, il savait accorder les compléments d'objets directs et il faisait très souvent zéro faute aux dictées. J'ai gardé tous les cahiers, tous les carnets qui nous servaient d'études. Et aujourd'hui, je les regarde avec beaucoup d'émotion. Parfois, j'en pleure parce que quand je revois mon écriture, c'était une belle écriture. C'est l'écriture d'un enfant appliqué, d'un enfant studieux qui voulait faire son maximum pour être le premier de la classe, ça se voit. Et ça m'étonne parce que j'avais 6 ans, 7 ans. Et je regarde de nouveau ces carnets avec les yeux d'un homme de 64 ans. Et ça me touche beaucoup, bon sang. Parce que 55 ans, 57 ans sont passés. Et j'ai l'impression, quand je retrouve ma dictée, où je fais zéro faute, que je suis en train de la faire là, à Lyon en ce moment. Et je suis très ému de cela. Je fais des opérations de calcul, du calcul, de la mathématique aussi, avec des énoncés de problèmes que je ne pourrais pas résoudre aujourd'hui, tellement ils étaient complexes. Et je suis très ému encore. Cela veut dire que c'est ce que raconte mon roman. En moi vit toujours un enfant. Toujours là. J'ai 64 ans, mais l'enfant est toujours là. Il se marre, il raconte des bêtises, il fait les pirouettes dans mon ventre. Dès qu'il peut prendre ce que je dis ou ce que je vis en dérision, il le fait volontiers pour essayer de me dire doucement, ne prends pas trop au sérieux ce que tu vis là, parce que c'est tellement éphémère, une vie dans l'univers. C'est une allumette qu'on allume dans l'éternité, dans l'infini, et qui s'éteint aussitôt. Alors n'y crois pas trop. Amusant, mais ne t'investis pas trop. Et surtout, me dit-il, mon enfant qui est dans mon ventre et qui habite à Beaumarchais, le barbier de Séville, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. J'aime beaucoup cette phrase de Beaumarchais dans Le barbier de Séville.
Qu'elle nous accompagne alors chaque jour avec la réflexion qu'elle suggère aussi. Revenons à l'école, puisque vous y êtes si attaché. Samy, en revanche, a conservé de l'école un souvenir douloureux, un souvenir d'humiliation. Et c'est joli, c'est le fameux passage de Aziz le rideau. C'est le château d'Aziz le rideau. C'est très drôle. Mais c'est une honte pour lui, parce qu'il a été
humilié
et de surcroît, et il a dû faire des lignes.
Sans lignes.
Sans lignes.
Je suis un. C'est quoi? Je suis un idiot.
Je suis un idiot, me semble-t-il. Oui. Ce qui, quand même, aujourd'hui, ferait scandale.
Oh, elle me fait rire, cette école républicaine des années 60. Hein. C'était l'école où, quand on se trompait, quand on était dissipé, On faisait rire ses camarades. Le maître ou la maîtresse, souvent le maître, nous demandait de croiser les doigts et nous filer un coup de règle en bois sur le bout des doigts. Et ça faisait super mal. Et celui qui enlevait sa main au moment où le maître frappait voyait sa sanction élevée au carré. C'est mathématique. C'est-à-dire quand on avait deux fois là... quand on enlevait deux fois sa main, on avait combien de coups ? 2 puissance 2, 4 coups. Quand on l'enlevait 3 fois, on avait 3 puissance 3, 9 coups. Exactement. C'est marrant cette
époque. Châtiment qui aujourd'hui...
Bonnet d'âne, vous vous souvenez du bonnet d'âne ?
Alors moi, je n'ai pas connu cette époque.
J'ai connu, c'est dingue, le bonnet d'âne. Heureusement que ce n'était pas un bonnet de cochon, parce que tous les enfants de musulmans que nous étions, c'eût été le sévice suprême.
La religion avait son importance dans
absolument
votre jeunesse,
zéro,
à Zouz ?
Zéro importance.
Vos parents faisaient
jamais
le ramadan ?
Rien, ah oui. C'était plus des... C'était plus une culture.
Il n'y avait pas de pratique ?
Non, il n'y avait pas de mosquée.
Pas de prière,
rien, non.
Pas de prière, même à la maison ?
Non, Allah était en vacances en ce moment-là. Il paissait dans les nuages, avec peu de problèmes à résoudre. Et puis c'est par la suite, et aujourd'hui en particulier, que ce problème est devenu central pour les défenseurs de l'identité nationale française.
Je parle de Ramadan parce que nos deux franco-algériens, les deux frères, arrivent en Algérie à Sétif sur la fin du Ramadan. Néanmoins, vous êtes critique à l'égard de ceux que vous appelez des musulmans du dimanche. Il est vrai aussi, il faut le rappeler aux Françaises et aux Français, d'ailleurs, celui qui a été longtemps président de l'Algérie, le président Bouteflika, est mort il y a maintenant quelques jours. Ce pays retrouve un semblant de liberté, mais l'avenir de l'Algérie semble incertain tout de même, avec une population très jeune qui n'a pas d'emploi.
Ah, c'est sûr, 45 millions d'habitants, 70-75% de moins de 30 ans.
Ouais.
Et tous ceux qui peuvent s'échapper de ce pays, comme dans les pays voisins, le Maroc et la Tunisie, hein, et le font avec grand plaisir, parce que, hélas, pour eux, l'avenir est très compromis, il y a beaucoup de nuages, il n'y a pas de... d'infrastructures économiques telles...
Une corruption importante à tous
les
étages.
Le cancer, oui, le cancer de ces sociétés, la corruption. Et donc ces jeunes pensent toujours, comme nos parents naguère, dans les années 50, 60, que l'Eldorado, c'était l'autre côté de la Méditerranée. La France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande.
Et c'est enfin, des Eldorados qui sont peut-être des mirages trompeurs.
Mais
aujourd'hui.
Oui, Eldorado, c'est-à-dire ce qui brille. Et c'est marrant de considérer que de nouveau, des millions de jeunes maghrébins considèrent maintenant l'Europe comme un nouvel Eldorado, tellement après 60 ans d'indépendance de leur pays, l'avenir n'a pas montré toutes ses promesses. C'est malheureux, je trouve.
Dans le roman, alors Azouz, est-ce que vous êtes vraiment le parrain de l'association
oui.
Bibliothèques sans frontières ?
Oui, ça ne vous étonne pas. Venant d'un enfant de l'école républicaine que les livres ont sauvé. Il se trouve que oui, je suis toujours... J'ai été depuis 35 ans un troubadour du livre. Je suis persuadé qu'un enfant qui a 3, 4 ans voit ses parents chaque nuit lui raconter des histoires, leur raconter des histoires dans l'oralité... Ben, a plus de chances de s'en sortir qu'un enfant qui, à 4-5 ans, est dans son lit avec un smartphone ou un iPhone et fait défiler des images devant lui avec ses doigts. La lecture, c'est l'envol.
Mais les histoires qu'on vous racontait, c'était la maman qui...
Non, c'est toujours, à peu près toujours le père.
C'était jamais
souvent,
Mima.
Non, c'est le père.
Mais il les racontait en arabe ou en français ?
En arabe, puisqu'il était non francophone.
Il ne parlait
et analphabète.
Que quelques mots
rien,
de français. Rien
ah oui,
du tout.
Oui. Il connaissait le langage rudimentaire de la maçonnerie.
Oui. Mais pas vous avez un point
pas
commun.
Pas la franc-maçonnerie. Hein.
Oui.
La maçonnerie, c'est-à-dire la taloche, la truelle, le ciment, le mortier.
Gâché.
Voilà, gâché. Mmh. C'est tout.
Et vous n'avez rien gâché, justement. Et vous avez un point commun avec un écrivain qui est en filigrane
Cavana.
Dans le roman. Non, je pensais à Albert Camus. Prix Nobel en moins, Aziz, pardon. Mais non, mais Camus
ça
aussi,
viendra.
Camus aussi, tout comme
le
vous, vient
homme.
D'un milieu extrêmement modeste.
Le premier homme.
Qui lui aussi, exactement, le premier homme, il en est beaucoup question de ce texte autobiographique d'Albert Camus.
Ben oui,
que Lee, d'ailleurs, rime et le narrateur à la fin
sûr.
Du roman.
Et Albert est très présent dans le livre, bien entendu, puisque lorsque Rime, dont les parents ont été assassinés pendant la tragédie des années 1990-2000 en Algérie, qui a fait 300 000 morts, 400 000 morts, qui le sait, qui le saura, eh bien, elle va au bas de la ville, dans une bibliothèque éphémère qu'un type dépose comme ça, plusieurs fois par semaine. Elle va piquer un livre, elle le met sous son voile, hein, parce qu'elle est voilée pour se cacher. Et c'est le premier roman d'Albert Camus, et quand elle le lit la nuit dans la maison de Beaumarchais, elle est complètement bouleversée par ce qu'elle vient de découvrir.
On rit beaucoup, il y a une émotion très forte, le retour des deux frères sur la tombe des parents. Samy avec son petit tupperware de cerises pour planter des cerises au pied de la tombe, c'est très émouvant. Moi j'étais très ému.
Merci.
Il y a beaucoup de plaisanteries, il y a des pitreries. Alors c'est Azouz dans le roman, comme le Azouz qu'on a en face de soi. Ouais. Azouz a un côté clownesque, pitre,
heureux,
provocateur aussi. Et puis il secoue un peu son vieux frère, il le secoue un peu quand même.
Oui, comme il secoue Yannick quand c'est nécessaire.
Ah mais il me secoue, oui. Alors il me secoue, mais aussi il me fait couler quelques larmes aussi. Ouais, je ne sais plus quel écrivain disait « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Mais ce roman tire la larme à l'œil, même s'il y a des passages extrêmement joyeux. Par exemple, dans la pizza au feu de bois, tenue par Fafa, alias le Marseillais. Alors, où avez-vous trouvé ces menus fantaisistes? C'est authentique, Azouz?
Je les ai inventés.
Spaghetti à la carbonara, salsifie du salafiste, gâteau étouffe chrétien avec son coulibaly, une purée mousseline pour les puristes de la pomme de terre sainte. C'est drôle, audacieux aussi. Okay. C'est vous qui avez inventé.
Oui, j'ai complètement inventé ça. Qu'est-ce que ça me fait rire d'inventer des trucs comme ça, en plus qui ont du sens. Voilà, le type lui dit, et pour terminer, en dessert, un gâteau étouffe chrétien. Vous savez, c'est des musulmans intégristes qui font ces menus-là. Ça me fait rire. Dans les spaghettis à la carbonara, normalement, il y a des petits lardons.
Eh oui.
Et pour outrepasser cette difficulté, tu fais des spaghettis à la carbonara.
Eh oui.
Et comme ça, tout le monde en mange. Quant à la purée, évidemment, quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend.
Nous, on reprend on reprend la conversation, peut-être pas, on ne reprend pas de la purée mousseline, on reprend la conversation juste après une nouvelle pause musicale. C'est Azouz Begag qui est aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre sur Radio. Je rappelle le titre de son dernier roman chez Julliard, L'arbre ou la maison. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Petite blonde, ne fais pas de vagues. Rentre dans le monde, reste sage. Je ressens tout autour de moi ce que vous murmurez tout bas. Au fond, je ne sais pas pourquoi tout le monde se moque de moi. Un peu différent.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Azouz Begag, dans votre roman...
Très très belle chanson que vous avez... Merci de l'avoir choisie pour moi.
Merci Azouz. Dans votre roman, L'arbre ou la maison, les deux frères vont à la rencontre de l'association des amis de Marcel Mouloudji.
Un jour, tu verras, on se rencontrera.
Et la main dans la main, et les yeux dans les yeux. J'aime beaucoup. Comme un petit coquelicot. D'ailleurs, le petit coquelicot.
Petit coquelicot. Oui. C'est Marcel Mouloudji, quand formidable. J'étais petit, les premières années où nous avons eu la télévision à la maison en noir et blanc, je voyais une émission, je crois, de Denise Glaser. Et une fois, elle a présenté un jeune homme qui s'appelait Marcel Mouloudji et qui s'est mis à chanter, je crois, On se rencontrera. Et ça m'avait marqué parce que Mouloud, tu t'appelles Mouloud ou Mouloudji? J'avais envie de lui dire, c'est quoi ton vrai nom? Et en fait, dans ce livre, je rappelle que Marcel avait un père qui était kabyle d'Algérie, qui s'appelait Saïd, et dont les frères... Dans le livre, on crée une association, les amis de Marcel Mouloudji, dans son village, où leur ambition, c'est de faire venir des livres pour faire en sorte que les jeunes de leur village se mettent à lire, et dans l'espoir que cela les garde à domicile, les empêche de partir ailleurs, trouver un Eldorado qui n'existe pas. Donc pour eux, la culture... C'est un des moyens de garder à domicile la richesse, la jeunesse de leur pays, les amis de Marcel Mouloudji. Vous avez remarqué aussi qu'il y a aussi, il aurait pu aussi y avoir les amis d'Edith Piaf.
Alors, incroyable. Un petit mot sur Edith Piaf,
mais
parce
oui.
que sa grand-mère
maternelle
s'appelait
Aïcha Ben Mohamed. Incroyable ça. Hein incroyable.
Donc Edith Piaf a des origines
oui,
kabyles.
Oui. Au même titre que... Kylian Mbappé, dont la maman l'est aussi, et bien sûr Zinedine Zidane, Danny Boone, Kad Merad, Isabelle Adjani, bien sûr. Pourquoi les gens qui sont racistes aujourd'hui, qui n'aiment pas les musulmans ou les arabes, ou les mélanges, ne sont pas tous pantois devant ce constat? Il y a plein de Français qui viennent
Azouz
des
Begag,
mariages.
Il y a aussi un racisme anti-français parfois. Ça existe.
De la part d'Isabelle Adjani ou Edith Piaf?
Non,
ou...
mais dans le quotidien, vous savez très bien qu'il y a un racisme anti-français.
Non, mais c'est un racisme qui ne vient pas des Français nés en France d'origine maghrébine. Ça n'aurait pas de sens. Vous voyez, c'est comme si vous étiez aux États-Unis dans les années 60, là, au moment si douloureux de la ségrégation raciale, et que des Blancs disaient aux Noirs américains « On est raciste parce que vous n'aimez pas les Blancs, quoi ». Alors, on s'en sort plus si chacun dit à l'autre on vous lynche, on vous discrimine parce que vous n'aimez pas les Blancs que nous sommes. Ça n'a plus de sens, tout ça. N'a plus de sens, enfin. Le racisme, enfin, c'est comme si vous omettiez le fait que l'idéologie raciste des nazis était une vraie idéologie raciste de pureté de la race nazie, de la race aryenne. Et on pouvait pas dire, les nazis ne pouvaient pas dire aux juifs « On vous aime pas parce que vous n'aimez pas les Allemands. » Enfin, les Allemands voulaient se débarrasser de la race juive parce qu'ils pensaient que c'était un vrai problème pour les Allemands et pour l'humanité. Donc ils voulaient éradiquer tout ce qui n'était pas dans leur prototype de race aryenne.
Il y a un épisode où Azouz va observer une manifestation d'Algériens donc qui s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle le Irak, c'est-à-dire un début de révolution.
Oui, Irak en arabe, ça veut dire mouvement, bouge.
Et là,
la movida.
Notre Azouz est reconnu par une sorte d'ayatollah barbichu que vous présentez comme un taliban et qui lui dit « Dis-moi, tu es bien le politique
ministre,
français
hein ?» Oui.
Et là, il y a risque,
ça
il y a danger.
Ça commence à sentir
il y a
mauvais.
Danger, oui.
Ouais, parce que...
Et c'est du vécu, c'est authentique ça?
Oui.
Ah oui.
Et là, il y a danger parce que... Il y a un fond de racisme anti-français qui existe toujours hein, dans chez les Algériens qui sont encore en prise avec la colonisation, puis la guerre d'Algérie et tous les massacres, surtout à Sétif, qui ont été commis par l'armée française. Et donc, ils ne pardonnent pas à la France et à ses soldats. Et ceux-là, plus que les autres, considèrent les enfants d'immigrés franco-algériens que nous sommes et qui sont nés en France comme des enfants français, quoi. Ils ne font pas la différence entre les harkis, les enfants de harkis, et les immigrés et leurs enfants que nous sommes. Tout est mélangé dans leur tête. Et quand ils me voient au milieu de la manifestation, le type me demande « Mais attends, mais toi, t'es français. Qu'est-ce que tu fais là? T'es ministre. Qu'est-ce que tu fais là ?»
Je t'ai vu à la télévision, et je t'ai reconnu.
Oui, parce qu'il capte la télévision française.
Alors quelqu'un lui dit « Mais non, il est d'ici, il est de Sétif. »
Oui. Voilà, donc je défends mes racines. Je suis dans l'obligation de prouver ma légitimité sur ces terres. Quelle ironie, alors que je suis venu avec mon frère pour nettoyer les terres, les stèles des tombes de nos parents.
Et voilà. Protéger la maison menacée par les racines de l'arbre qui attaque les fondations.
Voilà ce type qui me dit « Tu n'es pas d'ici. » Et la guerre des racines, à nouveau, reprend dans le troisième...
Surenchère, puisqu'il y en a un qui dit « Je crois bien qu'il est juif. »
Oui, comme Zemmour, comme Éric Zemmour. Et puis aussi, oui, pourquoi pas du Mossad. Et pourquoi pas marocain. Et pourquoi pas, je ne sais pas quoi, de la CIA et du contre-espionnage français. Enfin, tout est mélangé dans l'esprit des gens. Et ça commence à être à chauffer pour moi.
Et là ?
Et la corde se serre autour de mon cou, là.
Et là, il y a un petit coquelicot qui intervient. C'est Rime.
Oui, elle vient incroyable.
Courageusement, d'ailleurs.
Oui,
vous écrivez bien. Jamais une femme n'avait ainsi attenté à sa dignité de mâle. Quand vous parlez du mâle, c'est le fameux taliban barbichu, menaçant.
Elle rentre dedans, ouais.
Ah oui, ne touche pas à mon homme.
C'est mon homme, elle dit. C'est beau parce que c'est un peu cette image du peintre de la croix montrant Marianne sur les barricades de Paris avec un sein nu et indiquant le chemin de la liberté à tous les Parisiens, courageusement. C'est elle, une femme, qui montre le chemin. Et là, c'est elle, une femme, Rime, qui montre le chemin du courage et de la liberté à nouveau. Elle n'est pas sur des barricades, mais elle est pieds nus sur le sol, sur sa terre algérienne. Et elle sauve la vie de ce pauvre immigré qui venait, soi-disant, pour l'emmener en France et la sauver.
À l'extrême fin du roman, Azouz Begag, je vous lis. La nationalité française devait être réservée aux gens de valeur, pas aux barbares de l'immigration prolétarienne qui parlaient le français à l'envers, disaient keuf au lieu de monsieur l'agent, meuf au lieu de belle jeune fille et wesh au lieu de plaît-il. Alors, je continue, c'est intéressant. Pour ces réfractaires à la grammaire du pays d'accueil, ils plaidaient la déchéance, les coups de bâton dans les genoux pour être pliés en deux, nom de Dieu. Être français se méritait, il fallait aimer Madame la France. On peut considérer le propos comme outrancier, mais il y a tout de même une nuance.
Il y a quand même une vérité.
Une nuance de vérité derrière.
Et là, je vous vois venir, Yannick.
Ah bon? Je vous demande de réagir. Mais c'est un des passages du roman.
Il est marrant ce passage, je l'aime beaucoup parce que c'est enfin la rhétorique, c'est la rhétorique du Front National, c'est la rhétorique de l'extrême droite, c'est la rhétorique de tous ceux qui demandent aux gens venus d'ailleurs, eh bien de ressembler aux Français. Mais ça, c'est quoi un Français? Un communiste, un capitaliste, un maigre, un gros, un ouvrier, un chef d'entreprise, un type qui vote la France insoumise ou qui vote Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est un Français? J'en sais rien, moi. Vous savez très bien ma théorie, Yannick. Moi, je considère, et j'ai considéré depuis 30 ans, que la France, c'est comme un arbre. En bas, il y a des racines, des Français de souche, des racines, ouais, qui vont chercher très loin au Moyen-Âge. Et puis, au-dessus, là-bas, il y a des Français des branches, comme le petit Azouz qui est en face de vous, et les enfants d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols, de Polonais, je ne sais quoi, qui sont les Français des branches, les nouveaux-nés, les nouveaux Français, et qui font de jolies feuilles, qui captent la lumière et qui participent à faire grandir l'arbre de France à condition que avec les Français de souche, ils partagent le tronc commun. Qu'est-ce que c'est le tronc commun? C'est un certain nombre de valeurs qui avancent, qui évoluent, mais qui restent quand même des valeurs, celles de la liberté, de l'égalité, notamment de l'égalité homme-femme, celle de la fraternité, et surtout pour moi, l'enfant de l'école et l'enfant de l'université, les valeurs de l'esprit critique. Je suis un ami intime de François-Marie Arouet, dit Voltaire.
Oui, alors vous êtes dans le sens des Lumières. Mais le problème, c'est qu'il y a un obscurantisme qui menace certaines personnes.
Chez les Français ?
Oui, même chez les Français, je pense qu'il y a...
Ah, vous avez hésité, Yannick.
Non, mais je...
L'obscurantisme, c'est partout.
Oui.
Enfin, l'obscurantisme, c'est tout ce qui... D'ailleurs, il y a là un architecte qui raconte... Il a monté en 1898 une statue, une femme nue, dans la ville de Sétif, au bas, la fontaine Ain Fawara. Et ce type-là avait intitulé son œuvre « La nuit qui essaye d'éteindre le génie de la lumière ». Partout dans tous les pays, vous avez des gens qui portent la nuit, qui portent l'obscurité et qui veulent éteindre le génie de la lumière, c'est-à-dire le génie de la liberté de l'être humain. Et ce n'est pas réservé aux Arabes, aux musulmans, aux Juifs, aux chrétiens, aux Français, ou je ne sais quoi, ce truc.
Non, mais partout... il y a des gens qui déboulonnent des statues en France aussi.
Oui, mais partout où il y a...
Aux États-Unis, partout.
Où il y a des foules, il y a un danger d'obscurantisme. Il y a un danger d'obscurantisme lié aux peurs que peuvent ressentir les foules à un moment donné et à l'ignorance qui les pousse.
Et là, concernant cette statue, effectivement... du sculpteur Saint Vidal,
ouais.
En octobre 2017, des mains haineuses la défigurèrent au marteau et au burin. Ils lui brisèrent le pubis et les seins. Le sculpteur avait intitulé cette œuvre « La nuit essayant d'arrêter le génie de la lumière qui s'efforce d'éclairer la vérité ». Et vous l'écrivez, c'est barbarie voilà. À l'état pur.
Bien sûr, et cette barbarie, donc, elle s'attaque à tous les arts. La peinture, la sculpture, la musique que les êtres humains à travers le monde ont élaboré au cours des siècles. Et ce n'est pas pour rien que les talibans et autres combattants de l'État islamique, je ne sais où, s'attaquent aux richesses patrimoniales de l'Irak ou de la Syrie et détruisent...
Ou en Afghanistan.
Oui.
Les talibans, on ne sait pas ce qu'ils feront encore.
Vous vous rendez compte que ces gens-là, par exemple, ne supportent pas la musique. Ils considèrent que la musique, c'est satanique, quelle que soit la musique. C'est Satan. Les gens qui ont tué 120 personnes au Bataclan le 13 novembre 2015 sont allés là tuer des gens qui s'adonnaient au stupre et à la luxure dans un concert musical. Voilà, c'était pour eux l'un des péchés que les croisés, ils appelaient ça les croisés, en parlant des Français, les croisés, s'adonnaient avec beaucoup de valeurs démoniaques. Donc il faut les tuer.
Je mets en avant un propos d'un Algérien rencontré par Azouz qui lui dit « Les gens d'ici ne sont pas prêts pour la démocratie. Si tu n'utilises pas le bâton pour les discipliner, ils ne te respectent pas. »
Est-ce que ce n'est pas aussi Victor Hugo qui a dit ça dans mon livre ?
Oui, Victor Hugo l'a dit.
Il l'a dit.
Mais on l'a souvent
les
dit...
Les êtres inférieurs, en parlant
oui.
Des êtres inférieurs.
Vous lui en voulez beaucoup à Victor Hugo ?
Que nenni ?
Un peu.
Non.
Vous lui reprochez cette phrase qui s'inscrit dans un contexte très 19e.
Non, pas du tout. Je n'ai aucune animosité contre Victor. Au contraire, c'est juste pour signaler qu'y compris les grands penseurs, à un moment donné, prennent des positions que l'histoire va renier un siècle ou deux siècles plus tard, c'est tout. Alors que Lamartine, quand le massacre de 1845 en Algérie faisait rage, dénonçait à l'Assemblée nationale ce que le maréchal Bugeaud était en train de tramer dans ce pauvre pays.
Vous rappelez qu'en mars 2003, pour la première fois, un président de la République française s'est rendu en voyage officiel en Algérie.
Et d'ailleurs, Chirac.
Jacques Chirac, effectivement. Il est vrai que Irak, Chirac ont une résonance particulière. Et puis, vous n'auriez jamais pu être ministre de Nicolas Sarkozy.
Jamais de la vie.
Mais vous avez été dans le même gouvernement ?
Oui, il était le ministre de l'Intérieur et moi j'étais le ministre de l'Extérieur en gros, puisque à travers le monde on disait que quand même il y a un ministre issu de l'immigration algérienne dans un gouvernement français. Quoi. C'était quelque chose d'original et très valorisant pour la France. Et lui, il était le ministre de l'Intérieur. Entre lui et moi, il y avait une différence essentielle, c'est que lui avait une ambition en politique. C'était de devenir président de la République française. Diable, il le devint. Il le devint. Comment ? Eh bien, en allant chasser, sans vergogne, ni retenue, sur le terrain du Front National. Sans retenue, parce qu'ils disaient, c'est pas normal que ce Front National, là, qui engrange les votes de gens, de Français qui sont perdus, qui savent pas quoi voter et qui sont embêtés dans leur vie quotidienne par les soi-disant racailles des banlieues, les petits arabes qui sèment la pagaille dans les quartiers. Moi, je vais dire aux Français qui subissent ces incivilités, cette insécurité permanente dans leur ville, dans leur vie, que je vais régler cette question. Voilà. Moi, Nicolas Sarkozy, la racaille, je vais la carcériser. Voilà. C'était en 2005. Non, en 2006-2007, pendant la campagne, elle battait son plein. Sarkozy contre le Front National. Yannick, nous sommes en 2021, j'en suis à peu près sûr, ce même président anti-racaille, anti-banlieue, va aller en prison, en France, à Fresnes, ou alors la prison de la santé, parce que lui, et Brice Hortefeux et Claude Guéant étaient des mafieux. Et sont inculpés aujourd'hui par la justice de France d'associations de malfaiteurs. Vous vous rendez compte ? Et le petit Azouz Begag, le petit ministre de l'égalité des chances, qui avait maille à partir avec ses bandits, est devant vous aujourd'hui, librement, en train de siroter un petit verre de Vaune Romané ce samedi matin, en votre belle compagnie, en parlant de littérature. Quelle ironie !
Ce sera une belle conclusion, Azouz Begag. En tout cas, j'encourage nos auditrices et auditeurs à se rendre en Algérie, du côté de Sétif, aux côtés de ses deux frères binationaux.
En lisant un livre.
En lisant un livre.
Oui.
Et oui, et il y a d'ailleurs cette réflexion notée, plus personne ne lit aujourd'hui, puisque tout le monde parle à voix haute.
Qui a écrit ça ? C'est magnifique.
C'est Azouz Begag.
Non, franchement, c'est bien trouvé ça. J'ai aimé trouver ça. C'est le génie de l'écriture, de la littérature. Plus personne ne lit aujourd'hui parce que tout le monde
ou
parle.
Mal.
Ouais, parce que
ou
tout
mal,
le monde,
pas du ouais, tout.
Tout le monde lit parle à voix haute. Je veux dire, comme il n'y a plus d'écoute, plus personne ne lit parce qu'on ne s'entend plus. C'est beau, hein ?
Et autre très jolie phrase. Il y en a beaucoup hein, dans votre roman, mais celle-ci, je l'ai notée. En attendant, un œil haut placé nous espionnait sans ciller.
Le soleil,
c'est très joli. En tout cas, merci Azouz Begag du soleil que vous avez dans votre cœur et dans votre âme, vraisemblablement.
Ouais, mais parce que ce matin,
vous irradiez.
Ce samedi matin, nous sommes gâtés. Nous sommes, vous et moi, des êtres solaires.
Puissions-nous continuer à éclairer et réchauffer les cœurs et réjouir celles et ceux qui nous écoutent régulièrement. Je recommande chaudement, torridement, votre dernier roman paru chez Julliard et qui a pour titre « L'arbre ou la maison » sous la plume talentueuse d'Azouz Begag. On attend d'autres romans ?
Oui.
Oui.
Et surtout, j'attends que vous passiez ma chanson « La douce France » de Rachida dans les secondes qui passent.
Eh bien, on va la passer. Merci, Azouz Begag.
Merci, Yannick.
Et à bientôt.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance,
joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Mon bonheur.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.